Werner et Mado Lehmann. Merci d'être là, Werner et Mado Lehmann, qui viennent du canton de Vaud. C'est juste bien, voilà, toujours. On reconnaîtrait peut-être un petit accent qui est différent du nôtre. Et voilà, Werner et Mado Lehmann. Werner et Mado Lehmann, je les ai rencontrés plus précisément dans le cadre de l'Institut biblique Réma, qui est un institut de formation biblique. Et puis avant, sans qu'ils le sachent vraiment, ils ont été des personnes ressources, parce que l'église où ils ont été pasteurs pendant très très longtemps, eh bien, c'est un lieu de ressources à Oron-la-Ville, qui est en bénédiction, pas seulement pour Oron même, mais pour voilà, bien plus encore, pour la francophonie. Donc on a comme ça des puits de réveil, des zones où on peut se ressourcer. Oron en fait partie. Et c'est voilà, avec beaucoup de joie. On ne sait pas pourquoi Dieu fait comme ça, mais dans des endroits à la planète, il y a des lieux ressources. Ça vient des lieux de réveil. On peut aller voir des choses qui s'y passent. Bien sûr, Dieu est partout, mais particulièrement, il y a un lieu de révélation, de voilà, de visitation. Et donc, on a le privilège de les avoir. Ils sont parents, grands-parents, puis c'est des gens géniaux qu'on aime tout plein. Et voilà, je vous laisse la parole. Merci Werner, merci Mado d'être avec nous ce soir. Seigneur, bénis-les, fais d'eux des sources de bénédiction. Au nom de Jésus, nous ouvrons nos cœurs à ta présence à travers ce qui sera dit. Amen.
Bonsoir. Je parle français, hein? C'est les autres qui ont des accents. Bienvenue dans la présence de Dieu. C'est bon de le louer, de l'adorer. Pour ne pas avoir besoin de le faire en fin de mon message, nous avons écrit un livre. Alors, j'en avais imprimé beaucoup parce que j'avais des invitations en Égypte, en Afrique, ailleurs, au Liban, etc. Puis tous ces voyages ont été annulés. Donc, j'ai une action. S'il y en a qui n'ont pas lu ce livre, c'est l'histoire, c'est une autre histoire. C'est une autobiographie, mais c'est aussi l'histoire d'une église, cette petite église de frères, d'Oron, qui est assez légaliste, assez fermée, comme ça, qui tout à coup s'est ouvert à l'Esprit Saint, puis qui a vécu tout un. Une visitation, puis de là, finalement, il y en a aujourd'hui une dizaine d'autres communautés qui sont nées, qui sont les Gospel Center, que nous continuons à accompagner, alors que nous sommes officiellement à la retraite. Donc j'en ai quelques-uns ici à disposition. Ils sont normalement 22 francs, mais si vous mettez 10 francs, ça va très bien. Donc s'il y en a qui veulent lire une histoire, c'est une histoire facile à lire, c'est juste notre histoire. Dieu était très bon. Le thème de notre livre, c'est « Quand Dieu au-delà de nos rêves, ce que Dieu a fait avec nous, il peut le faire avec vous ». Et puis l'introduction de la page de derrière, et si vos réalisations futures se cachaient dans vos rêves d'aujourd'hui? Je pense que nos réalisations futures se cachent souvent dans nos rêves d'aujourd'hui. Donc ça dit un tout petit peu l'esprit du livre. On a chanté tout à l'heure, nous voulons vivre pour ta gloire, pour la gloire de ton nom. Est-ce qu'on veut être restauré dans la gloire de Dieu? La pensée de ce que je veux partager, c'est une parole de l'apôtre Paul ce soir, qui sera le thème, un petit peu le thème central de ce que je vais partager, où l'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. On est trop parole, pas assez puissance. Je le dis pour moi, je le dis pour vous. Il faut un peu plus de la puissance, de la manifestation de la puissance de Dieu. Et on va regarder ensemble un tout petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Quels sont les pas peut-être qu'on peut faire ou les pas qu'on a besoin de refaire pour découvrir un peu plus cette puissance de Dieu? On peut se poser une question, est-ce que Dieu, dans l'histoire de l'humanité, a manifesté sa puissance de façon plus forte à certains moments qu'à d'autres? D'une certaine manière, on pourrait le dire. Mais quand on sonde les Écritures, on voit que la parole de Dieu nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc personne n'a des problèmes avec hier, personne n'a le problème avec demain, il y en a qui ont juste un problème avec aujourd'hui. Mais il est le même qu'il était hier, et c'est le même qui sera demain. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Alors on peut se poser une autre question, est-ce que Dieu finalement, il n'a pas des petits chouchous? Il y a qui pensent ça, hein? Mais là aussi, si on sort de l'Écriture, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne, donc il a un amour égal pour chacun, chacune d'entre nous. Après, c'est sûr que plus on s'approche de quelque chose de chaud, mais plus on a chaud, plus on s'en éloigne, plus on a froid. Ça, c'est une réalité. Donc, j'aimerais vous encourager à vous approcher de Dieu. J'aime beaucoup cette parole de Jacques, c'est un verset très très court. Dans Jacques 4, verset 8, il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Chaque fois que vous faites un pas dans sa direction, Dieu fait un pas dans votre direction. Alors je pense que vous savez que vous avez un pèlerinage journalier à faire. Il est décrit dans Matthieu 6, 6. Et je vous encourage à faire ce petit pèlerinage, c'est pas loin de chez vous. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, Dieu qui est là dans le lieu secret, te le rendra. Allez dans ce petit moment avec face à face avec Dieu. Il n'y a pas besoin de faire toujours des longues prières. Vous savez, quand on prie 10 minutes de suite, on se répète de nombreuses fois. Vous avez remarqué ? En 10 minutes, vous avez répété beaucoup de fois. Et Jésus dit, ce n'est pas la peine de répéter beaucoup de fois, je ne suis pas sourd. Juste avant la prière de notre Père, Jésus dit, il enseigne cela. Mais je vous encourage à aller d'une façon régulière dans la présence de Dieu. Je vous encourage à faire ce que je fais. Je ne suis pas un exemple en tout, je n'ai pas cette prétention-là. Mais il y a une chose que je fais depuis, je pense, un peu plus de 40 ans. Je ploie mes genoux chaque jour devant mon Dieu. Si je ne le fais pas, c'est exceptionnel, c'est parce que j'ai été absorbé par autre chose, mais normalement, je prends le temps de m'arrêter le matin. Souvent même, avant d'aller à la douche, avant d'aller au petit-déj, je vais m'incliner et je vais adorer Dieu. Je ne reste pas à genoux pendant des heures. Je m'incline parce que je dis, Dieu, je viens pour t'adorer. Je viens pour te dire merci parce que tu m'as aimé le premier et j'aimerais te dire que je t'aime, que tu es digne de louange, d'honneur et de gloire. Et puis, cher Saint-Esprit, merci de m'accompagner dans cette journée. J'ai besoin de ton aide. Alors, c'est pas toute la vie chrétienne, mais au moins, vous savez, si finalement, on ne le fait pas, si on n'a pas une certaine discipline, on veut être des disciples du Christ. Est-ce qu'il y en a qui veulent des disciples du Christ ? Ben, il faut une certaine discipline. Donc, on aimerait tous être très disciplinés, on n'y arrive pas toujours, pour être loin à personne. Mais si on ne le fait pas, la journée, elle passe, on ne s'est pas arrêté, on ne lui a pas parlé vraiment, ou peut-être juste parce qu'il y a eu un problème. Et puis le soir, on dit « Seigneur, merci de me donner une bonne nuit de repos, Amen. » C'est un petit peu court. Donc, je vous encourage, prenez un petit peu de temps pour aller louer et adorer Dieu. Puis, il y a d'autres moments où on peut prier longuement. Moi, j'aime bien prier longuement, et j'aime bien prier quand on est 3 ou 4 personnes. 3 ou 4 personnes qui ont l'onction de Dieu. Et tout à coup, vous savez, il y a comme des étapes de rentrer dans la présence de Dieu. Quand vous avez juste « Seigneur, je vais te louer, je vais te dire merci », etc., vous restez à un certain niveau. Mais si vous poussez un petit peu la frontière, tout à coup, il y a comme le ciel qui s'ouvre. Et là, vous avez toute la révélation qu'il faut pour prier. Et là, vous pouvez prier, pour intercéder longtemps. Et quand il y a vraiment des intercesseurs qui prient, qui louent, qui adorent, qui mènent le bon combat, alors j'aime beaucoup ça. Et puis ça, on peut le faire. Et tout à coup, il y a l'onction de Dieu qui est là. Tu peux aussi chercher un sujet de prière et puis préparer ta prière dans ta tête. Ça coule. Je vous encourage à expérimenter cela. Faites cela de temps en temps. Ou vous prenez du temps en disant, maintenant, je me discipline. Pas besoin de faire ça tous les jours. De temps en temps, discipliner et puis dire « Aujourd'hui, je prends du temps pour prier. » Le diable va faire tout ce qu'il peut pour vous éviter, pour vous empêcher de faire cela. Mais si vous êtes déterminé, le diable aura de peu de pouvoir. Vous savez que le diable a un pouvoir très limité. Il a seulement le pouvoir de nous tirer là où il veut nous tirer, son mort à son hameçon. Le Saint-Esprit, il y en a qui disent « Moi, je veux plus du Saint-Esprit. » Récemment, je disais « Seigneur, est-ce que réellement c'est ça le besoin de ton peuple, plus du Saint-Esprit ?» Et d'une certaine manière, oui, mais le Seigneur m'a dit « C'est pas ça que tu dois leur enseigner. Tu dois leur enseigner à coopérer avec le Saint-Esprit. » Parce qu'on peut prier plus du Saint-Esprit, je vais tomber dans l'onction, je n'ai rien contre ça. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'apprendre à coopérer avec le Saint-Esprit. C'est de lui obéir. Je suis sûr que certains d'entre vous, vous avez des voitures modernes. Dans les voitures modernes, normalement, il y a une caméra de recul. Alors, quand vous reculez, ben, vous voyez ce qu'il y a derrière. Pour autant que la petite caméra ne soit pas bouchée et sale. Et puis, plus vous reculez, puis si vous arrivez près d'un obstacle, ça bip toujours plus fort. Quand vous franchissez la ligne blanche ou la ligne traitée, si vous ne mettez pas le clignoteur, vous avez le volant qui vibre. Et puis, si vous approchez trop près de la voiture de devant, la voiture freine tout à coup automatiquement. Extraordinaire. J'aimerais vous dire que Dieu a mis un système bien plus perfectionné que cela à l'intérieur de chacune de nos vies. Vous croyez ça? C'est extraordinaire. Mais parfois, dans la vie humaine, on fait comme moi je fais avec ma voiture. Moi, il y a certains trucs dans ma voiture, j'ai débranché parce que ça m'énerve. Parce que quand je me rabats alors que j'ai dépassé, je ne veux pas que chaque fois, bim, bim, ma voiture, ça clignote jaune parce que je n'ai pas mis mon clignoteur à droite. Je mets mon clignoteur à gauche pour rentrer à droite, on n'est pas toujours obligé de le mettre. Donc il y a des trucs, puis des fois je suis, un peu distrait, je regarde des choses à gauche, à droite quand je roule. Tout à coup, je touche la ligne blanche et puis alors j'ai éteint cela. Mais dans nos vies, il faut que ce dispositif que Dieu a placé en nous, il puisse continuer à bien fonctionner. De quoi s'agit-il? Alors j'ai pris, je ne sais pas pour faire une démonstration tout pour voir, mais j'ai pris tout pour voir avec moi. Alors, il y a... Je crois que je vais mettre là-dessus, comme ça vous voyez. Parfait. Il y a un réceptacle. Et puis, il y a le fameux produit miracle. C'est quoi le réceptacle? Qui doit contenir la chose la plus précieuse que Dieu nous donne. La chose la plus précieuse que Dieu donne, c'est la monnaie qu'on utilise dans le ciel. Cette monnaie du ciel, c'est la foi. Et le réceptacle, j'en ai pris deux. Le réceptacle, c'est notre conscience. Je vais vous montrer ça dans l'Écriture dans un instant. Alors Dieu veut déverser cette chose précieuse dans un réceptacle qui est capable de le contenir. Voilà. La chose précieuse est dans ce réceptacle. Mais parfois, notre réceptacle est différent. Vous versez dedans. Et puis, vous les partagez aux autres. Et puis, parfois, notre conscience, elle ressemble un petit peu plus à ça qu'à l'autre ustensile. Est-ce que la Bible, elle parle de ça? J'ai été très surpris récemment, alors que j'ai réétudié sur la question de la conscience. Et très souvent, dans nos vies, nous ne prêtons pas assez attention à ce que notre conscience nous dit. Tu sois croyant ou non-croyant, tu as une conscience. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand les non-croyants observent un chrétien qui fait quelque chose de faux, ils savent dire, lui, il est chrétien, puis il fait ça. Il ne devrait pas faire ça. Comment il fait pour savoir? Celui qui n'est pas chrétien, il n'a pas lu sa Bible. C'est que la loi, elle est inscrite à l'intérieur de nous. Puis notre conscience, elle nous dit quand c'est juste et puis quand c'est faux. Oh, combien il y aurait des difficultés en moins si on avait appris un petit peu plus à l'écouter. Combien de troubles, de tourments, d'insomnie, de manque d'audace, d'une foi faible ou inexistante sont le résultat d'une conscience HS, hors usage, hors service. Et nous avons tous parfois, tous, moi avec vous, nous avons parfois franchi en disant « je ne veux pas écouter ma conscience ». Qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Regardons un peu. Il y a plus de 30 références, évidemment je ne vais pas toutes vous les lire, il y a plus de 30 références dans le Nouveau Testament qui parlent de la conscience. Je veux lire deux textes dans l'épître, la première épître de Timothée, dans 1 Timothée 1, versets 5 et 6. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. « L'ordre que je te donne a pour but de faire grandir l'amour. » Donc, l'apôtre Paul a envie que l'amour de son fils spirituel Timothée, cet amour, il grandisse. Est-ce qu'il y en a qui veulent que leur amour pour Dieu grandisse? Est-ce qu'il y a quelques volontaires? Ah, c'est bon, ok, je peux continuer. Et puis, ici, l'apôtre lui dit « Tu as besoin de trois choses pour que cela se produise. Tu as besoin d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que j'ai une bonne conscience? Est-ce que j'ai une foi sincère? Trois ingrédients très importants si on veut voir la puissance de Dieu être manifestée. Je vais aller dans un autre texte où je vais m'arrêter un tout petit peu plus, toujours dans Timothée, toujours chapitre 1, versets 18 et 19. Voici ce que dit l'apôtre. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites préalablement à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Première question. Est-ce que nous sommes en train de mener le bon combat? Est-ce que vous savez que nous avons un combat à mener? Parce que jusqu'au moment où Christ exaucera la prière de tous les chrétiens, qui est la prière de notre Père, où on lui dit que ton règne vienne, pourquoi on prie ça d'ailleurs? Pourquoi on dit, Seigneur, que ton règne vienne? Parce que son règne n'est pas encore venu. Christ est venu une première fois. Christ a eu la victoire sur l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi, mais cette réalité de sa victoire n'est pas encore appliquée d'une façon universelle. Mais Christ va venir instaurer son règne. Mais dans l'attente que Christ instaure en son règne, nous avons un combat spirituel à mener. Et l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 6, il dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Nous, on aime souvent bien se disputer avec la chair et le sang, hein. Il dit, c'est pas contre cela que vous allez vous disputer, vous allez vous disputer contre des principautés, contre des pouvoirs, contre des dominations. Nous avons une autorité pour rappeler, excusez-moi, pour rappeler que ce qui se passe dans le deuxième ciel, c'est là où le monde spirituel opposé à Dieu est en action et pour l'instant a un droit légal sur la planète Terre. Dieu t'a donné un droit légal à l'ennemi? Non. Dieu l'a chassé du ciel, l'ennemi. Puis juste pour la petite histoire en passant, parce que certains chrétiens me disent « Pourquoi Dieu il a fait un diable ?» Vous n'avez pas compris, Dieu n'a jamais fait de diable. Il a fait des êtres extraordinaires, des archanges, des chérubins, etc. Et Lucifer était celui qui était responsable de la louange et de l'adoration de Dieu dans le ciel. Il s'est rebellé contre Dieu, il était chassé du ciel, chassé de la présence de Dieu. Et il est venu séduire l'être humain que nous sommes pour retrouver du pouvoir et un droit légal sur la terre. Mais très bientôt, Dieu instaurera son règne d'une façon universelle. Mais dans cette attente, nous avons un combat spirituel à mener, un combat spirituel pour nos propres vies, un combat spirituel pour nos proches, un combat spirituel pour notre pays, selon la mesure que Dieu donne à chacun, peut-être un combat spirituel pour une nation, pour un continent, où on prie, où on intercède et on confronte. Et on ne mène pas un combat en vue de la victoire. Hello. On n'est pas en train de mener un combat en vue de la victoire. Nous combattons à partir de la victoire de Christ pour rappeler à ce monde spirituel la victoire et le triomphe de Jésus-Christ. Donc on n'est pas en train de combattre en espérant peut-être on aura la victoire. Nous combattons à partir de quelqu'un qui a eu la victoire, le Christ. À partir de cette position-là, nous avons une autorité pour rappeler à ce monde spirituel opposé à Dieu qu'il doit reculer. Donc ici, Paul il dit à Timothée, je veux que tu combattes le bon combat, c'est ce qui a été prophétisé sur toi, mais ne rentre dans ce qui a été prophétisé sur toi. Et ensuite il lui dit, pour que tu puisses combattre le bon combat, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de la foi et d'une bonne conscience. Et qu'est-ce qu'il dit le texte? Combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns l'ont abandonné et ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Si la foi, si notre conscience n'est pas OK, si elle ressemble à ça, votre foi va être très faible. Vos prières, très faibles. La foi, c'est plus trop. Quand notre conscience est abîmée, on n'aime plus beaucoup la présence de Dieu. Vous avez tous remarqué ça. Quand on a fait quelque chose un peu tordu, puis on n'a pas écouté notre conscience, peut-être ça ne vous est jamais arrivé à vous finalement, mais tout à coup, ouais, c'est pas le bon moment pour prier, hein. J'ai triché, puis j'ai dit un mensonge, et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Tout à coup, la foi n'est pas là, parce qu'elle n'a pas le réceptacle. Et Paul il dit à Timothée, il dit pas que quelques-uns ont perdu la foi. Il dit que quelques-uns n'ont pas prêté attention à leur conscience. Et parce qu'ils n'ont pas prêté attention à leur conscience, leur foi est partie, ou elle est devenue très faible. Je crois que Dieu aimerait réveiller quelque chose dans la vie de chacun, chacune d'entre nous. C'est-à-dire, je veux que ma conscience puisse retrouver son plein potentiel et son rôle. La conscience, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a beaucoup de textes. Je vais citer encore un deux textes. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est une histoire avec Jésus, dans Jean 8, verset 9. Les pharisiens, ils ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris que la moitié de la partie. Parce que probablement, il y avait un mec dans l'histoire. Et je ne pense pas qu'ils ont dit à la dame, écoute, va à la maison, t'habiller, te faire joli, parce qu'après, on va aller vers Jésus avec toi. Je pense qu'ils l'ont traîné vers Jésus. On dit Jésus, et ils voulaient coincer Jésus. Ils ont dit Jésus, Moïse a dit qu'une telle personne, elle doit être lapidée. Qu'est-ce que tu dis, toi, Jésus ? Jésus dit, c'est OK, je suis d'accord avec Moïse. Mais juste une condition, une règle, une seule. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et ils sont partis en laissant tomber leur caillou du plus vieux au plus jeune. Parce qu'ils sont arrivés en la traînant et sont arrivés avec le caillou à la main pour la lapider. Parce qu'ils voulaient réellement dire, mais cette fois Jésus, on le coince. Mais seulement, pourquoi ils sont partis ? Parce qu'il est dit dans ce texte, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Accusés par leur conscience. Jésus dit, OK, c'est bon, vous pouvez jeter la pierre. Mais il faut juste que celui qui commence, il n'ait pas péché. Alors tout à coup, il y a quelque chose qui s'est dingue. Tout à coup, la conscience a commencé à travailler là. Hein? Jésus a touché le reset. Ils ont laissé tomber leur caillou, ils sont partis. Celle certainement qui, dans l'histoire, a la plus mauvaise conscience, c'est la femme. Et Jésus, cette histoire, elle est très intéressante. Parce que Jésus n'a pas contrôlé les pharisiens du regard, parce qu'on peut contrôler les gens avec le regard. Jésus s'est baissé. Et ils ont pu partir avec honneur, d'une certaine manière. Discretos. Si nous, on avait été à la place de Jésus, on aurait dit, vous n'êtes pas meilleur que cette femme. Et puis, on aurait mis la condamnation, on l'aurait mis sur les pharisiens. Jésus n'a pas fait ça. J'ai dit, OK, vous pouvez y aller. Et ils se baissent, ils se détournent le regard. Tout le monde essaie d'expliquer ce qu'il a écrit dans le sable. C'est pas dit. Hein. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne les a pas contrôlés du regard. Il les a laissés repartir avec un certain honneur. Et à la fin, il n'y a plus que la femme quand Jésus se relève. Et Jésus lui dit, où sont tes accusateurs ? Ils sont tous partis ? Oui, ils sont tous partis. Et Jésus lui dit, ils ne t'ont pas condamné ? Il dit non, ils sont partis. Moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Dieu n'est pas là ce soir pour nous condamner. Hein. Dieu, c'est un Dieu de restauration. Dieu est un Dieu qui veut que ce qu'il a placé à l'intérieur de nous, la foi, c'est la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée. Dans Marc 9, il est dit que tout est possible à celui qui croit. Beaucoup de gens me disent, c'est écrit dans la Bible que tout est possible à Dieu. J'ai dit, non, ça, tu n'as même pas besoin d'être croyant. Parce que même le gars qui est athée, il dit, si Dieu existe, sûrement qu'il peut tout faire. Donc, ce n'est pas ça que la parole de Dieu elle dit, que tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, la foi, elle est très importante. Et plus notre conscience va être clean avec le Seigneur, plus on va être fort dans la foi. Plus tu vas avoir de l'hardiesse que tu pries, plus tu vas avoir de la force pour confronter le monde opposé à Dieu et lui rappeler la victoire et le triomphe de Jésus. Donc j'aime beaucoup cette histoire de Jésus. Je lis encore un de textes, je ne les développe pas, mais je lis un de textes avant d'aller plus loin. Acte 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et aussi devant les hommes. Romains 2, 15 et 16. La loi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon l'Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Vous savez qu'un jour, nos actions vont être jugées par Dieu. Alors, on a deux possibilités. Je ne vais pas prêcher sur ce thème-là ce soir, c'est un autre thème, mais je veux juste le mentionner. C'est le feu de Dieu. On a tous entendu parler que Jésus baptise du Saint-Esprit, que Dieu baptise, nous remplit du Saint-Esprit, mais il est dit que Dieu nous remplit d'Esprit Saint et de feu. Le feu, il a deux significations. Soit c'est un feu de condamnation, de jugement, soit c'est un feu de purification. Et l'apôtre Pierre va dire, votre foi plus précieuse que l'or, qui a été purifiée par le feu, doit être purifiée. Donc, je vous encourage, parce que le jour vient. Vous savez, il y a différents endroits de jugement dans la Bible. Il y en a trois, en fait. Le premier, c'est celui qu'on trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 13. Ce que la Bible appelle le tribunal de Christ. Moi, je n'aime pas trop le terme tribunal de Christ, parce que la réalité, si on regarde le texte original, c'est Christ est sur une tribune. Et là vont être réunis tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Tous, quelles que soient nos étiquettes d'église, etc., tous ceux qui ont reconnu le Christ comme sauveur et seigneur de leur vie vont être réunis là. C'est un lieu où il n'y a personne qui est condamné, c'est tous des gens qui ont été graciés. Et je souhaite, mon frère, ma sœur, que tu aies déjà été gracié par Dieu. Sinon, c'est le moment de plaider coupable devant lui et d'accueillir la grâce qu'il offre. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce lieu particulier? Vous lirez ça dans 2 Corinthiens 5, verset 13. Il est dit « Chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il a fait naître dans son corps ». Donc c'est mieux de se laisser purifier par le feu aujourd'hui que de voir nos œuvres qui sont purifiées et puis de réaliser « Ouf, j'ai mal agi ». Moi, j'ai été interpellé à un moment donné quand j'ai lu cela dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul dit « Vous avez un seul fondement sur lequel vous pouvez construire, ce fondement c'est Christ ». Et ensuite, il dit « Prenez garde à la manière dont vous allez construire ». Et il va mentionner, il utilise une métaphore, et il va mentionner six matériaux. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. Ok. Jusque-là, ça va. On se dit, bon, une métaphore, de l'or, de l'argent, c'est pas très bien ce que ça veut dire. Continuez à lire le texte quelques versets plus loin, au verset 13, en Corinthiens 3. Il dit, l'œuvre de chacun va être éprouvée par le feu. Ah, là, ça, c'est embêtant. Ok, il a utilisé une métaphore. Il y a trois matériaux que Jésus mentionne ici, que l'apôtre Paul mentionne ici, pardon, qui ne craignent pas le feu. L'or, l'argent, les pierres précieuses. Puis ensuite, il mentionne trois autres matériaux, le bois, le foin et le chaume. Ça brûle bien et ça brûle vite. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, nos œuvres vont être éprouvé par le feu, si l'œuvre de quelqu'un elle résiste à l'épreuve du feu, on va prendre notre récompense dans le royaume de Dieu pour toujours. Et si notre œuvre elle est consumée, eh bien, on pourra quand même être sauvé, mais comme au travers du feu, et notre vie terrestre n'aura pas servi à grand-chose, donc pas à glorifier Dieu. Et j'aimerais, mon frère, ma sœur, que ta vie terrestre, pendant que tu en as encore le souffle ici sur la terre, elle puisse servir Dieu, avec force, avec une foi forte, avec une prière convaincante en disant « J'ai une autorité. » Et je vois beaucoup de gens qui sont très faibles. Alors, on n'ose pas attaquer les démons parce qu'on dit « Oui, mais après, on va avoir des retours. » Moi, j'ai des occultes qui sont venus me voir, ils m'ont dit « T'as pas peur des retours ?» Je t'ai entendu attaquer les démons, j'ai dit « Mais on se place sous la protection du sang de Jésus. Puis si le diable lui vient contre nous, on va lui résister, puis on va se réfugier auprès du Seigneur. » Et puis quand notre foi elle est faible, on n'est pas très audacieux pour confronter l'adversaire. Donc cette conscience que Dieu nous a donnée, qui est ce réceptacle pour que la foi de Dieu puisse résider en nous, elle est très importante. Ce n'est pas juste la foi. Ce n'est pas juste plus du Saint-Esprit. Seigneur, je veux que ce que tu as placé à l'intérieur de moi soit totalement fonctionnel. Mais il y a une chose qui est embêtante, c'est qu'ici-bas, pendant notre pèlerinage terrestre, il semble que de ne pas trop écouter nos consciences, ça fonctionne mieux que de trop l'écouter. Mais ça, c'est juste dans un laps de temps très court. Notre laps de notre vie, elle est très courte, c'est quelques décennies. Il y a quelques semaines en arrière, je pense 4 semaines en arrière, j'ai une dame qui m'a dit, j'ai quelqu'un qui a tapé avec sa voiture dans ma voiture, qui a fait une cabosse, et quand je suis rentré à la maison, j'ai passé chez le carrossier pour le montrer, j'ai dit, OK, va annoncer sa assurance. Et le carrossier, il a fait le tour de la voiture, et dit, oui, mais il est aussi cabossé devant. Il dit, oui, mais devant, ça c'est mon affaire, c'est moi qui ai cabossé, c'est moi qui vais faire réparer, c'est l'arrière, c'est l'autre voiture. Le carrossier a dit, non. Il dit, je répare toute la voiture, je fais une seule facture, j'envoie tout à l'assurance, ça c'est l'assurance, c'est tous des voleurs, donc ils n'ont qu'à payer. Puis la dame a dit, non, mais ça c'est moi qui ai cassé. Non, elle lui dit, laissez-moi faire, je m'occupe de tout. Elle est rentrée à la maison, elle a parlé avec son mari, puis elle a dit, mais le carrossier m'a dit qu'il voulait tout réparer, puis tout mettre à l'assurance, mais moi je trouve que ce n'est pas juste. Et ils ont décidé que son mari de retourner voir le carrossier en disant, non, vous réparez l'arrière, vous faites une facture pour l'assurance pour réparer l'arrière de ma voiture. Ce qui est cassé à l'avant, c'est nous qu'on veut le payer. Des fois, c'est tellement plus simple de dire, j'écoute pas ma conscience, vas-y. Et on a tous des expériences de cet ordre-là. Hein. Puis des fois, il faut juste tricher un tout petit peu, puis ça marche. Mais après, ça marche moins bien dans la relation verticale. J'ai un de mes fils qui est agriculteur. Il loue un taureau pour que ses bêtes soient de nouveau gestantes et puis puissent de nouveau faire un veau l'année suivante. C'est des bêtes qui coûtent très cher, puis sur laquelle un mois, deux mois. Et ce taureau, il s'est cassé une patte. Alors il appelle l'assurance, parce que ce n'est pas une bête qu'à lui, c'est une bête qui est assurée, et puis l'assurance elle vient, elle dit, écoutez, si le taureau il s'est cassé la patte dans l'écurie, l'assurance ne paye pas. Si c'est cassé la patte en dehors de l'écurie, l'assurance elle paye. Mon fils est en train de dire, il faut écrire sur la déclaration d'accident qu'il s'est cassé la patte en dehors de l'écurie. Mais mon fils a dit, mais il s'est cassé à l'intérieur de l'écurie, alors on ne paye pas. Et l'assuré a dit, c'est quand même pas compliqué, vous dites qu'il s'est cassé la patte en dehors de l'écurie. Mon fils lui dit, vous êtes en train de me dire que si je mens, vous payez, si je dis la vérité, vous ne payez pas. Il dit, oui, monsieur. Mon fils le regarde et lui dit, mais vous êtes vraiment sérieux? Vous voulez me faire mentir pour faire fonctionner l'assurance et je dis la vérité, vous ne payez pas. Il a réfléchi un instant, il a dit, dites la vérité, on payera. Mais la première chose, c'est de dire, il suffit de mentir un peu, puis c'est bon. Et on fait des choses comme ça, et ensuite tout à coup on est surpris que notre communion avec Dieu, elle devient faible, notre foi un peu inexistante. Il y a des choses qui coûtent, hein, mais ça aura une répercussion, si on obéit à notre conscience, ça aura une répercussion jusque dans la vie éternelle. J'ai un homme d'affaires qui est venu me voir, 55 ans, il me dit, pasteur, je veux régler ma vie. Je ne le connais pas. J'ai découvert qui il était par la suite. J'ai dit, vous voulez régler quoi? Il me dit, j'y comprends rien à vos histoires du christianisme, mais je sais que je dois mettre ma vie en ordre avec le bon Dieu. Ah, j'ai dit, tu es sur la bonne voie. J'ai dit, qui t'a dit de faire ça? Il m'a dit, personne. Il m'a dit, moi j'ai un père qui a toujours vécu loin de ces choses-là, il ne s'est pas occupé, mais j'ai une mère qui a toujours prié pour moi. Elle n'est plus de ce monde. J'ai 55 ans, je sais que je dois mettre ma vie en ordre avec Dieu. Et les prières des mamans et des papas. Alors j'y prêche l'évangile, j'y dis, voilà ce que tu dois faire. Tu veux te préparer à aller au paradis? Parce qu'en langage courant, les gens comprennent mieux quand on dit paradis que royaume de Dieu. Hein. Ça veut dire la même chose, mais quand je parle avec les non-chrétiens, je leur dis, tu vas aller au paradis? Ils me disent, des fois je leur dis, est-ce que tu es né de nouveau? Ils me disent, je ne comprends pas la question. Est-ce que tu es sauvé? Ils disent, je ne comprends pas la question, je suis catholique. J'ai dit, tu vas aller au paradis ou tu vas aller en enfer? Ils disent, plutôt au paradis. Ok. Alors, est-ce que tu sais comment on y va au paradis? Alors, j'explique à cet homme d'affaires, j'ai dit, tu dois changer ta manière de vivre. C'est ce qu'on dit en français courant aujourd'hui. Ça s'appelle la repentance. Je lui dis, si tu veux être sauvé, tu es obligé de mettre ta confiance dans le Sauveur Jésus-Christ. Tu dois pas seulement adhérer qu'il a existé, mais tu dois croire qu'il existe avec ton cœur, avec ton esprit, et tu dois le déclarer avec ta bouche. C'est important que tu te fasses baptiser d'eau, parce qu'au travers du baptême d'eau, tu vas t'identifier à la mort de Christ et tu vas t'identifier à sa résurrection, et à ce moment-là, tu rentres en alliance avec lui pour toujours. Et puis tu dois être rempli du Saint-Esprit. Donc je lui explique ça un petit peu plus long que je le fais ici. Il me dit, génial. Il me dit, c'est ça que je veux faire, est-ce que tu peux me conduire? J'ai dit, oui, je vais te conduire. Donc, il donne sa vie au Seigneur. Et puis, il me dit, pour le reste, c'est, je fais comment? J'ai dit, c'est quoi le reste? Ben, il me dit, je dois quand même régler un peu ma vie. Ça s'appelle la repentance. La plupart des chrétiens ont vécu la repentance trop rapide et trop courte. Ça, c'est un danger. L'autre danger, c'est trop long. Beaucoup de chrétiens ont vécu la repentance comme ça. Alors, ils sont ici, ils ne sont pas chrétiens. Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés. Amen. Voilà. Maintenant, je suis rentré dans le royaume de Dieu. Mais je n'ai rien réglé. Alors, il me dit, je dois régler ma vie. Il me dit, je fais comment? J'ai dit, tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ah bon? Il me dit, ça, c'est embêtant. J'ai dit, ben, écoute, et puis tu obéis. Puis tant que tu n'es pas sûr, tu lui demandes. Puis si tu as besoin de reparler avec moi, tu reparleras avec moi. Mais obéis à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il vient me revoir quelques temps plus tard, il me dit, c'est bon, j'ai réglé ma vie. J'ai dit, vraiment? Il me dit, oui. Alors, raconte-moi ce que tu as fait. Il me dit, j'ai sorti ma calculatrice, j'ai commencé à calculer tout l'argent non déclaré qui a passé dans mes mains. Et c'est un chiffre, c'est un montant à 7 chiffres, plusieurs millions. Alors, il me dit... D'abord, j'ai hésité, mais je suis allé voir les impôts. Je leur ai dit, voilà ce qui se passe. Je suis un homme d'affaires, il y a de l'argent qui a passé dans mes mains qui n'a jamais été déclaré. Je suis en train de mettre de l'ordre dans ma vie, j'aimerais payer les impôts. Le gars des impôts, il dit, il n'a jamais eu un cas comme le vôtre. Il dit, voilà le montant que j'estime qui a passé dans mes mains qui est de l'argent non déclaré, je veux payer les impôts. Et je peux vous dire qu'il a sorti un gros montant pour régler son affaire. Et il me dit, Werner, je suis léger comme l'air. Ma conscience, elle est pleine de force et de vigueur. Mais c'est compliqué. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est plus simple des fois de dire, OK, on passe par-dessus, on n'écoute pas. Mais quelle est la réalité spirituelle finale? La jeune fille qui vient dans mon bureau, 23 ans, elle dit, Werner, prie pour la délivrance. J'ai dit, Werner, il ne prie pas pour la délivrance, à moins qu'il sache pourquoi il va prier. Mais elle me dit, tu sais, il faut juste prier. J'ai dit, non, je n'ai pas de prière comme ça. Tu me dis, de quoi tu veux te délivrer? Puis après, on décide si on prie ou si on ne prie pas. Mais tu sais bien. J'ai dit, non, je ne sais rien. Mais tu sais, j'ai fait des bêtises. J'ai dit, oui, ben, tout le monde en a fait quelques-unes. Je sais une chose, c'est que tu as fugué de la maison pendant 6 mois. Ta mère ne savait plus où tu étais. Alors, je ne sais pas ce que tu as fait pendant les 6 mois. Mais si tu me le dis, peut-être que je peux t'aider. Non, mais j'ai juste fugué. J'ai dit, est-ce que tu as fait la prostituée? Est-ce que tu as vécu avec n'importe qui? Elle m'a dit, non. Alors j'ai dit, dis-moi ce que tu as fait, de quoi tu as besoin d'être délivrée? Je suis devenue voleuse professionnelle. La question suivante, j'ai dit, pour des centaines ou des milliers? Elle m'a dit, pour des milliers. Jamais fait coincer? Non. Elle m'a dit, plusieurs valises pleines. J'ai dit, quoi en substance? Des bijoux très chers et des parfums très chers. Le reste ne m'intéresse pas. J'aimerais régler ma vie, donc prie pour ma délivrance. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas de prière pour toi. Il faut restituer. Tu ne peux pas juste dire pardon, puis j'ai volé, puis maintenant je change. Donc j'ai dit, si tu ne règles pas, et vous savez, le chemin à la montée est plus dur qu'à la descente, surtout à vélo. Mais c'est aussi comme ça dans nos vies, quand ça descend, on se laisse aller, etc. Mais quand il faut remonter la pente, c'est un peu plus dur. Il me dit, mais je ne me rappelle pas partout où j'ai volé de tant d'endroits. Je lui ai dit, t'occupe pas de ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit, il va te montrer ce que tu dois restaurer et il te montrera que tu commenceras à faire une chose, mais j'ai dit, ce que tu as vécu est trop difficile. Donc je vais te mettre quelqu'un à disposition qui peut t'accompagner dans ce projet de restitution. Est-ce que tu veux faire? Puis elle a fait un tout petit bout, puis elle a abandonné, puis je l'ai perdu de vue. Mais j'ai dit, si tu ne règles pas, tu viendras me voir dans 10 ou 15 ans et tu me diras, Werner, pourquoi dans ma vie, il n'y a rien qui marche? Pourquoi je suis toujours fauché? Pourquoi tout ce que j'entreprends échoue? Vous savez, on est confronté à des réalités spirituelles. Et quand le diable a des droits légaux, parce qu'on n'a pas réglé ce qu'on devait régler, alors le diable nous frappe, il nous maintient captifs. La semaine dernière, j'ai un homme qui m'appelle. Je le connais depuis des années. C'est un homme très dynamique, qui a aussi une entreprise, qui habitait Paris avant, qui est maintenant en Suisse. Et puis, Il est comme déboussolé. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, j'ai des tocs, je perds la tête. C'est tout juste, il nous reconnaissait. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je ne sais pas. J'ai dit, depuis quand ça dure ton histoire? Il me dit, 3 mois. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait il y a 3 mois? Je ne sais pas. J'ai dit, mais arrête. J'ai dit, dis-moi ce qui s'est passé, puis on discutera après quel médicament il faut appliquer. Hein. Alors, elle me dit, j'ai eu une relation avec une autre femme, ma femme ne le sait pas, qui a duré une année. Et ça a rompu à 3 mois. Et depuis, il perd la tête. Puis c'est pas juste, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Hein. J'ai dit, ben, je vais te dire une chose, je dis ça très très rarement. J'ai dit, tu as été envoûté. Et au moment où on a pris autorité sur l'envoûtement, les démons sont manifestés immédiatement. Alors les gens disent, oui, mais pourquoi tu fais ça? Mais comment tu oses faire ça? Mais attends, Jésus ne nous a-t-il pas dit d'aller, de chasser les démons, de guérir les malades? Mais il faut que notre conscience, elle soit clean pour cela. Et j'aimerais vous encourager, bien-aimés. Si Dieu vous montre des choses que vous devez régler, réglez-les. Ne soyez pas juste à l'excès ou vous savez, où tout à coup on fait des choses totalement excessives. Il y a aussi la grâce de Dieu. Mais quand il y a des choses qu'il faut régler, il faut les régler. Quand il y a des choses qui ont besoin d'être confessées, il faut les confesser. C'est des fois difficile. Et j'ai trouvé cet homme dont je parlais tout à l'heure très courageux. Il a ouvert sa vie. Il n'y a pas totalement tout qui est réglé, on l'a vu qu'une fois pour l'instant, mais Dieu va le visiter. J'aimerais lire un dernier verset de la parole de Dieu qui sera aussi un peu vers ma conclusion, j'ai encore quelques mots à dire, mais Hébreux 10, 22 dit, il y aurait beaucoup d'autres textes à citer, « Approchons-nous donc du Christ d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Hébreux 10, 22. Est-ce qu'on va s'approcher de Dieu avec hardiesse, avec un cœur pur, avec une conscience purifiée et le corps lavé d'une eau pure? J'aimerais prier avec vous et on va faire un petit moment de ministère avec mon épouse. Gloire à Dieu. Quels sont ceux et celles qui, je ne vous demande pas de lever la main, quels sont ceux et celles qui aimeraient simplement dire au Seigneur, Seigneur, je veux que tu viennes purifier ma conscience. Je veux de nouveau être habité par cet esprit de foi, d'audace, pour te servir. Et quand ta conscience va te dire, ne touche pas, n'achète pas, tais-toi, retire-toi de cette dispute. Ne regarde pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Est-ce que tu vas l'écouter? C'est la question que tu aimerais te poser ce soir. Est-ce que tu vas écouter ce qui se passe au fond de toi-même? Pour que ta conscience soit restaurée, pour que la force, la hardiesse, la foi conquérante viennent de nouveau à l'intérieur de toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs. Seigneur, tu sondes nos cœurs et nos reins. Et j'aimerais te faire cette prière que David a faite dans le psaume 51. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous retire pas ton Saint-Esprit. Pourquoi David dit cela? Il avait péché, il avait manqué, mais David a vu une chose. Il a vu que dans la vie de Saül, à un moment donné, Dieu a retiré son esprit. Alors David dit, c'est pas ça que je veux vivre. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si ce soir tu prends l'engagement devant Dieu, pas devant moi, mais devant Dieu, de dire, Seigneur, je veux obéir à ma conscience, je veux que ma conscience de nouveau apprenne à fonctionner. Je sais que c'est compliqué, je sais que notre nature charnelle, elle revendique ses droits. Tu as besoin d'un esprit de hardiesse et j'aimerais libérer sur toi, mon frère, ma sœur, un esprit de hardiesse qui est capable, pas juste d'avoir une bonne intention, mais qui est capable de résister, de tenir ferme. La parole de Dieu dit qu'à la résolution répondra le succès. Et je prie qu'il y ait un esprit résolu qui vienne sur toi. Où tu n'as pas juste une bonne intention, mais où tu vas faire ce que l'Esprit de Dieu te dit. Tu vas commencer à coopérer avec le Saint-Esprit. Tu vas commencer à vivre une nouvelle relation d'intimité avec Dieu. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu sondes les profondeurs de chacune de nos vies. Devant toi, rien n'est caché, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et nous voulons, Seigneur, que dans cette période de l'histoire, nous soyons habités par ta présence. Conduis, Seigneur, pour que le royaume de Dieu ne soit pas manifesté seulement avec des paroles, mais avec la puissance de Dieu. Ranime ce que Dieu t'a donné. Ranime ce don que Dieu a placé en toi. Ranime ce zèle. Ranime ce feu. Tu ne dois pas créer un feu, tu dois t'approcher du feu de Dieu, du feu de sa présence. Et ce n'est pas un feu qui va te consumer, c'est un feu qui va te purifier. Ma chérie, tu veux me rejoindre ? Je sais que ça concerne la plupart d'entre nous, la question de la conscience. Donc ne laisse pas le diable te mentir et t'accuser, te condamner, dire c'est fichu, il y a trop de choses difficiles. Non, non, fais une chose à la fois. Un jour à la fois, une chose à la fois. Règle les choses, étape après étape. Crie vers ton Dieu pour que ta conscience commence de nouveau à fonctionner. Dieu l'a mise à l'intérieur de toi comme cet avertisseur, comme ce signal qui va tourner au vert et qui va tourner au rouge ou à l'orange. Je libère cette grâce de Dieu sur vous.
Le Seigneur a mis sur mon cœur cette pensée tout d'un coup. Elle n'est peut-être pas évidente à partager, mais beaucoup de personnes ont l'habitude de s'excuser par rapport à leur conscience. Et systématiquement, quand ils ont fait mal, ils trouvent des excuses pourquoi ils ont mal réagi, mal agi ou mal réagi. J'aimerais prier pour les gens qui ont pris cette habitude. Juste de dire, oui, mais il y avait ça. Le Seigneur aimerait que tu sois simplement vrai devant lui et que tu puisses lui apporter les choses qui te pèsent, qui sont dans ta vie. Parce que tu aies fait les choses avec volonté ou sans volonté ou à cause de quelqu'un d'autre, les résultats sont les mêmes. Donc c'est comme si le Seigneur me disait, mais prie pour ces gens, mais avant, demande-leur d'abandonner cette façon de penser systématique. Quand tu fais faux, il y a quelque chose où tu t'excuses. Oui, mais c'était pas grave, c'était juste, je voulais juste essayer. Toutes ces choses-là, on a tendance parfois à les faire. Je veux pas généraliser, mais je sais que certaines personnes ont pris cette habitude. Et ce soir, le Seigneur aimerait vous délivrer de cela. De pas apporter d'excuses quand le Seigneur te parle, quand il touche ta conscience. Père Céleste, j'aimerais t'apporter les personnes qui sont concernées par cela. Et ce soir, tu m'as montré cela, donc tu aimerais libérer ces personnes de cet esclavage parce que ça ne leur permet pas de sortir de ce qui se passe dans leur vie. Je lis tout esprit d'excuse, toute argumentation face à leur conscience et je brise tout ce que l'ennemi aimerait amener comme retenue dans leur vie dans le nom de Jésus maintenant. Soyez libres de reconnaître parce que ça va amener une guérison profonde et une libération dans votre vie. Les excuses n'amènent rien, la vérité devant Dieu amène la lumière. Et ça va vous libérer. Soyez libres maintenant dans le nom de Jésus. Amen.
Si tu fais partie de ceux ou celles qui n'aiment pas le miroir et l'image que le miroir te renvoie, tu dois combattre cet esprit de rejet. Ces voix que l'ennemi fait entendre à l'intérieur de toi qui te dit « tu es nul, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. » Et je veux prendre autant. Autorité. Je prends autorité sur tout ce qui est lié à des esprits de rejet. Si tu es concerné, expire profondément. J'ordonne à tout esprit de rejet. Tout esprit aussi qui veut te dire tu ne peux pas changer. Non, par toi-même, tu ne peux pas. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il dit aussi qu'avec moi, tout est possible. Et il y a des gens aujourd'hui qui doivent être libérés de ce rejet, de ce sentiment de mépris qu'ils ont par rapport à eux-mêmes, même de déni. Au nom de Jésus, je brise ce joug, je brise cet esprit qui te condamne. Jésus n'est pas venu pour te condamner, Jésus est venu pour te relever dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, de ce que tu ramènes de la joie et de la paix Amen. Dans la vie de chacun et chacune d'entre nous.
Amen.
Et je prends autorité contre tout esprit de rejet, aussi d'amertume, de mépris de soi, de mépris et de jugement sur les autres, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Thérèse, j'ai une pensée pour toi. Peut-être qu'on te l'a déjà dit, je ne sais pas, mais ton temps de vie qui est devant toi ne sera pas un temps de silence. Tu as encore des choses à dire. Je sais que tu as déjà fait beaucoup de choses par tes actes. Tu as montré ce que tu avais en toi d'une façon extraordinaire. Et l'ennemi veut voler ta parole. Et tu as des choses à dire. Et ce soir, j'aimerais prendre autorité contre ce qui t'a volé la parole. On veut briser ce joug sur ta vie maintenant. Étendez vos mains vers elle. On brise là et tu vas pouvoir de nouveau louer Dieu. Allez. Tu vas de nouveau pouvoir crier devant ton Dieu. Tu vas pouvoir de nouveau prendre la parole et je te délie de ces cordes vocales qui ne veulent plus fonctionner. Dans le nom de Jésus, diable, tu lâches toute emprise sur Thérèse maintenant. Cette femme est destinée à ouvrir la bouche et proclamer les bontés de l'Éternel. Et on proclame la guérison et les bontés de l'Éternel sur ta vie, maintenant, dans le nom de Jésus. Cordes vocales, vous refonctionnez au nom de Jésus. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. J'ai une parole pour le jeune homme qui est au front avec le masque noir. Si tu peux faire juste un petit signe. Oui, ok. Le Seigneur me donne une image. Et je vois que dans ta vie, il y a de nombreux registres, etc. Puis certaines choses, elles sont fermées, verrouillées. Mais je vois comme si Dieu, sur ta vie, est en train d'ouvrir un espace, un registre où il y a quelque chose de glorieux qui est préparé par Dieu pour toi. Et il y a comme une invitation de Dieu de ne pas avoir peur de rentrer à l'intérieur, tu vas voir que c'est quelque chose qui va se passer à l'intérieur de toi, mais comme d'aller dans cette présence de Dieu, et tu vas expérimenter une visitation de Dieu nouvelle. Je ne sais absolument pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais Dieu a quelque chose en réserve pour toi de glorieux, de fort. Et il y a quelque chose de l'onction et de la puissance de Dieu qui va te visiter. Et tu vas voir que certains dons spirituels vont commencer à se manifester avec plus d'intensité dans ta vie. J'aimerais te bénir avec cette parole. Puis j'aimerais prier, avant de terminer, tu as une autre parole, chérie ?
C'est bon.
J'aimerais prier pour tous ceux qui sont malades.
Oui.
Donc il y a deux réalités. Laissez-moi une minute. Il y a une première réalité qui sont les fêtes. Si je suis malade, je suis malade. Ce n'est pas en disant je suis bien pourtant, alors je suis malade, ça ne va pas résoudre le problème. Donc c'est un fait. Et on ne peut pas le négliger. Mais il y a un deuxième fait, certainement plus fort que le premier. C'est que la parole de Dieu, dans 2 Pierre 2, verset 24, il est dit, « Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. » Et le problème, c'est que quand on est malade, plus que dans le normal, nos yeux se fixent sur la réalité physique et humaine. Je suis malade. Et je ne dis pas qu'il faut vivre dans le déni de ça. On ne peut pas faire ça, c'est de la folie. De vivre dans le déni d'une réalité. On a le droit de se faire soigner, on a le droit d'aller à l'hôpital, si on a besoin de l'hôpital, on a le privilège d'avoir accès à ces choses-là. Mais j'aimerais que tu apprennes à fixer tes yeux. Et si tu es malade ce soir, je vais prier pour toi, mais j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à remercier Dieu parce que tu m'as guéri à Golgotha. Sur cette même croix où Jésus-Christ a versé son sang pour racheter les êtres humains et permettre à chaque être humain qui le souhaite de rentrer dans le royaume de Dieu, sur cette même croix, il y a eu ces meurtrissures dans lesquelles nous recevons la guérison. Et je t'encourage là aussi peut-être à mener un combat spirituel. Puis dire, maladie, hors de mon corps, dans le nom de Jésus. Tu n'as pas de droit de résidence là-dedans, dehors, dans le nom de Jésus. Alors, je ne suis pas dans les absolus. Hein. J'ai aussi prié pour des gens qui ne sont pas guéris, etc., ou en bagarre, puis qui sont des bonnes personnes, et je ne suis pas en train de mettre une culpabilité parce que quelqu'un est malade, tu dis, ah bon, c'est que je ne suis pas en ordre. Non. On ne veut pas de ça, c'est pas, on n'est pas là pour ça. Mais j'aimerais t'encourager à contempler cette réalité spirituelle dans les meurtrissures de Christ. J'ai été guéri. Il y a la réalité physique, mais il y a une autre réalité spirituelle. Mettez cette réalité spirituelle un peu plus haut que nous la mettons habituellement. Ça va ? Ceux qui ont besoin de prière, j'aimerais vous inviter à vous lever et je m'attends à ce que la puissance de Dieu se manifeste.
Amen.
Je m'attends à ce que la puissance de Dieu se manifeste. Je ne vais pas demander à chacun quelle est sa maladie, je ne vais pas imposer les mains parce qu'on a gardé les distances sociales. Et puis on a le droit d'être malade. Et ça ne veut pas dire qu'on est méchant, et ça ne veut pas dire qu'on a péché. Ok ? Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je prie pour mes frères et sœurs qui sont debout. Je libère, Seigneur, ce que tu as accompli à la croix dans tes meurtrissures. Tu t'es chargé de nos maladies. Tu t'es chargé de nos souffrances et je prends autorité dans le nom de Jésus contre tout esprit de maladie, contre tout esprit d'infirmité. Je brise ton pouvoir, Satan, dans le nom de Jésus et je libère la puissance de l'Esprit de Dieu sur vos corps, sur vos âmes, sur vos esprits pour que vous soyez restaurés et guéris. Pas seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Je prie que la vie de Dieu commence à couler. Je prie que le fleuve d'eau vive coule en toi et au travers de toi, dans le nom de Jésus. J'appelle la santé. Je ordonne à la maladie de régresser et de quitter les corps ce soir, dans le nom de Jésus. Maladie, tu étais vaincu par Christ. Christ a vaincu tout jusqu'au dernier qui était la mort. Maladie, tu quittes les corps ce soir.
Amen.
Par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Je libère cette puissance de Dieu. Avec ma limitation humaine, avec mes paroles trop faibles, mais la puissance, elle est dans ton nom, Seigneur Jésus. Et dans le nom de Jésus, je dis, soyez guéris. Dans le nom de Jésus, je vous guéris. Je prends autorité sur ces douleurs incessantes de la fibromyalgie. Je prends autorité sur la maladie de Crohn. Je prends autorité sur les douleurs articulaires.
Maladie
l'arthrose, l'arthrite, dans le nom de Jésus.
Amen.
Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tout cancer, sur tout esprit de mort.
Oui.
Je prends autorité sur toi dans le nom du Seigneur Jésus. Je te chasse, tu te retires, tu t'en vas, j'appelle la présence de Dieu. Commencez à dire merci Jésus parce que tu m'as guéri. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, peut-être que vous dites non, mais c'est un mensonge, je suis malade. Oui, on sait que si on est malade, on est malade. Commence à remercier Jésus pour sa guérison. Merci Jésus. Dites avec moi, merci Jésus.
Merci
Jésus, parce que tu m'as guéri à la croix. Et aujourd'hui, je viens chercher ma part de restauration et de guérison. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à mon corps, parlez à votre corps, j'ordonne à mon corps de fonctionner normalement. J'ordonne à la douleur, dites avec moi, j'ordonne à la douleur, à la maladie, de sortir de mon corps dans le nom de Jésus.
À l'infirmité.
Et j'appelle la présence de Dieu.
Jésus.
J'appelle le bien-être, la santé,
Jésus.
Dans le nom du Seigneur Jésus. Recevez,
Amen.
Recevez.
Amen.
Dieu est en train de te toucher. Il y a des douleurs qui s'en vont. Il y a une personne qui est là et tu étais diagnostiqué bipolaire et tu es comme enfermé dans ce diagnostic. Et ce soir, le Seigneur te dit, je viens briser ce diagnostic. Tu ne resteras pas prisonnier de ce diagnostic-là, dans le nom de Jésus. Le diable t'a toujours dit, tu ne vas pas vivre longtemps. Tu vas mourir avant le terme que tu souhaiterais. Ce soir, je prends autorité sur cet esprit de mensonge. Je prends autorité sur cet esprit de mort. Et je libère la présence de Dieu sur ta vie, dans le nom de Jésus.
Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu.
Amen.
Autre chose ? Non,
je crois
c'est
que
l'heure.
C'est bon.
S'il y a parmi nous des personnes, vous pouvez prendre place, je termine. S'il y a parmi nous des personnes qui ne sont pas sûres d'être sauvées, pas sûres de dire « je peux aller au paradis », venez me voir, j'aimerais prier avec vous et j'aimerais vous donner quelques conseils. Dans le royaume de Dieu, ou dans le paradis, il n'y aura que des volontaires. Tu ne seras pas là-bas par contrainte. Il n'y aura que des gens qui ont choisi d'y aller. Et ce soir, c'est une bonne soirée pour choisir. Et si tu n'es pas sûr de ton salut, viens me voir tout à l'heure, j'aimerais prier avec toi. Merci beaucoup de votre attention, que Dieu vous bénisse. Merci.